La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Notre espérance est en toi, ô Dieu notre Père, dans ta présence et dans ton amour. Je vous invite à prendre place. Notre frère et ami Marc de Michely est entré dans la paix du Christ mercredi dernier, le 10 juillet. L'accident vasculaire cérébral a eu raison de lui. Mais la mort n'a pas le dernier mot dans la vie de Marc. La mort n'a jamais le dernier mot. C'est ce qui fait notre espérance en tant que chrétien. Et parce que Marc l'était résolument, fidèlement, il marche désormais en pleine lumière. Nous sommes réunis cet après-midi pour rappeler cet amour de Dieu qui ne lâche rien et certainement pas quelqu'un comme Marc qui lui a fait confiance sa vie durant. Mais l'amour de Dieu ne nous lâche pas non plus cet après-midi. Nous qui restons sur cette terre avec notre douleur. Le prophète Ésaïe disait « Voici, dit l'Éternel, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, oui, mon amour, dit l'Éternel, ne s'éloignera point de toi. » Nous sommes ici pour pleurer un ami, un frère, comme Jésus a pleuré la mort de son ami Lazare, mais aussi pour nous rappeler cette espérance qui, sans le faire revenir, change toutes nos perspectives sur l'existence humaine. Nous sommes ici pour entourer Marie, son épouse, et ses enfants, Pascal, Florence et Serge, et leur famille, Annick et sa famille, sa sœur, avec ses parents, entourer ses parents, Angèle et Pierre, pour entourer les 7 petits-enfants, avec lesquels, ou plus, avec lesquels il était si beau de voir Marc jouer, les cajoler, les bichonner. Oui, nous voulons être avec vous qui souffrez ensemble, mais chacun aussi à sa manière, de cette disparition soudaine, certainement trop rapide, trop tôt. Il vous manque terriblement, et il nous manque déjà. Mais nous savons qu'il est dans la maison du Père et que cela nous apaise. Chacun se souvient de Marc de Michely d'une certaine manière. Mais il me semble que tous nous pourrions nous souvenir de Marc comme un homme qui n'avait pas peur de s'engager dans tous les domaines, avec chaque fois beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup de sagesse. Dans son travail au laboratoire, à l'Institut de physique, dans le conseil d'administration de notre maison de retraite des Bougainvillers, dans l'association des enfants à la montagne, l'association J'avais faim aussi, dans son club de volleyball aussi, il était engagé, surtout dans les parties de volleyball, il était très engagé. Il était aussi dans son église locale ici depuis des dizaines d'années. Il était depuis quelques années président du conseil de cette église, mais il était aussi présent au niveau national, il faisait partie de la commission synodale de notre union des églises libres. Il était aussi dans le vivre ensemble de Cannes, et nous remercions de leur présence les représentants des communautés bouddhistes, israélites, musulmanes et soufis, catholiques bien sûr, et protestante évidemment. Alors par tous ses engagements et par sa stature, il pouvait paraître impressionnant, Marc, mais dès qu'on le connaissait un tout petit peu, il était tellement attachant et sensible aux besoins des grands et des petits, prêts à rendre service à tous, trouver un travail à l'un, trouver un logement pour l'autre, passer du temps avec tous. Et personnellement, ce qui m'a frappé Chez lui, c'est sa capacité d'entrer en amitié, très rapidement. Et je peux en témoigner de cette rapidité à entrer en amitié avec les gens. Marc était fort en amitié. Et votre présence cet après-midi nous rappelle combien c'était important pour lui les relations, les bonnes relations, celles qui durent. Je n'ai pas parlé d'un dernier domaine où Marc était engagé, c'était celui de la musique et du chant choral. Marc aimait chanter, il aimait aussi la précision quasi scientifique dans le chant. Et il avait une belle voix basse. La chorale du conservatoire a voulu lui rendre hommage en chantant le cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré. Et j'appelle la chorale à s'avancer. Et vous pouvez suivre les paroles dans votre feuillet que vous avez reçu. Ou peut-être pas, mais en tout cas, les paroles de ce chant de Jean Racine y sont. Et je voulais remercier la chef de chœur, Madame Florence Daly, d'avoir organisé ce magnifique chœur. Nous sommes venus ici aussi pour nous mettre en présence de Dieu, et je vous invite à vous unir dans la prière. Ô Dieu, notre Père, nous voilà réunis dans l'émotion et dans la peine. La peine que nous cause le départ de notre ami et frère Marc. Mais c'est aussi dans l'amitié et dans l'affection partagée que nous nous réunissons. Et pour cela, nous t'en remercions. Oui, Seigneur, que ce moment où nous rapproche le souvenir de Marc puisse aussi nous rapprocher de toi. Viens approfondir en chacun de nous la foi, l'espérance et l'amour. Éclaire de ton esprit les paroles que nous allons entendre à travers la Bible et permets qu'elles soient véritablement pour nous un message de vie. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Donne-nous ton esprit qui réconforte et qui éclaire afin que ce moment douloureux s'illumine pour nous d'espérance et de paix. Amen.
Je lirai avec vous le psaume 63 de David. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Je soupire après toi dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Parce que ta fidélité est meilleure que la vie, mes lèvres font ton éloge. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Je serai rassasié comme de graisse et de moelle. Des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur mon lit, pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi, car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi, ta droite me soutient.
Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Célébrez le Dieu des dieux, car sa fidélité est pour toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa fidélité est pour toujours. Celui qui seul fait des choses grandes et étonnantes, car sa fidélité est pour toujours. Celui qui fait le ciel avec intelligence, car sa fidélité est pour toujours. celui qui construit la terre sur les eaux, car sa fidélité est pour toujours. Celui qui fait les grandes lumières, car sa fidélité est pour toujours. Le soleil, pour dominer sur le jour, car sa fidélité est pour toujours. La lune et les étoiles, pour dominer la nuit, car sa fidélité est pour toujours. Celui qui se souvint de nous, quand nous étions abaissés, car sa fidélité est pour toujours. Qui nous arracha à nos oppresseurs, car sa fidélité est pour toujours. Celui qui donne du pain à tous, car sa fidélité est pour toujours. Célébrez le Dieu du ciel, car sa fidélité est pour toujours.
Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu, vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle, et moi, je le relèverai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est issu de Dieu, lui a vu le Père. Amen. Amen. Je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, c'est moi qui suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi, je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde.
Nous allons chanter ensemble les chants choisis par Maryse et les enfants et la famille que vous avez sur votre feuillet, dans votre feuillet. Bienheureux qui t'aime. Et pour ceux qui veulent lire les notes, il y a quelques feuilles de chant avec les notes de musique pour ceux qui savent et peuvent lire les notes. Je vous invite à vous lever pour le chanter ensemble. Et nous aurons un instant de témoignage sur la vie de Marc, et c'est un des pasteurs qui a servi ici de 85 à 2000, je crois, ou 99, qui va s'approcher 2000. Hein. Emmanuel Alvarez qui parlera un petit peu au nom de tous les pasteurs de l'Union et qui témoignera de ce compagnonnage de vie.
Merci Eric. Alors quand on est pasteur, on tisse des liens et c'est souvent sans s'en apercevoir qu'on découvre combien ils sont plus profonds et ancrés qu'on ne le pensait. C'est la réaction que Dominique et moi avons eue en apprenant l'hospitalisation de Marc. Des liens, on va dire, depuis 34 ans. Quand Dominique et moi sommes arrivés à Cannes en juin 85, nous faisions, avec Marc et Maryse, partie des trois ou quatre jeunes couples de l'Église, avec des enfants du même âge, des enfants qui aussi sont nés en même temps. Les liens se sont tissés. Et pendant 16 ans, on a cheminé ensemble, avec, je dirais, une fraternité naturelle. C'était pas difficile avec Marc. Un petit point, lorsqu'avec Olivier Caillot, on a commencé à courir le long du boulevard du Midi, Marc nous a rejoints. Nous n'allions pas loin à l'époque, mais ce n'était pas à cause de Marc. Nous étions contents de nous retrouver. Et que dire des mémorables pique-niques au manoir de l'étang, et j'en passe. L'engagement de Marc a eu aussi ses fruits pour les relations entre églises. La chorale que nous avions formée avec l'église baptiste de Nice et que Marc dirigeait a permis de créer des liens forts entre les deux églises à l'époque. Et je pense, et Eric, tu l'as dit tout à l'heure, à tout le travail en commun avec l'Association des enfants à la montagne, pour laquelle Marc avait toujours de bonnes idées et il avait toujours un bricolage à faire dans la maison ou une vaisselle, et cela en toute humilité. Plusieurs années après, nous nous sommes retrouvés à la commission synodale de l'Union et j'avais l'impression qu'on ne s'était jamais quittés. Ce que je retiens de Marc, c'est sa disponibilité, sa volonté pour faire avancer les choses, mais pas n'importe comment. Faire les choses au mieux, ne pas se satisfaire d'un minimum ou d'un statu quo, parce que c'est aussi et surtout pour le Seigneur. Servir au mieux les autres, sans en chercher aucune gloire. Et tout cela d'une manière convaincue et naturelle chez lui. Je retiens sa consécration solide pour l'œuvre de Dieu, quels que soient les problèmes. Prier, travailler pour trouver des solutions. J'ai toujours pu compter sur lui. Même pour réparer mon PC alors qu'il travaillait sur Mac. Il était toujours là, engagé. Et je dirais même que l'engagement, c'est une marque de famille. Je pense à toi aussi, Maryse. Pascal, qui était embarqué au piano. Florence et Serge, au violoncelle. Et je retiens de Marc un chrétien convaincu et fidèle. Et puis je pense à vous, Pierre et Angèle, vous remerciant pour tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez transmis et que Dominique et moi gardons aussi. Alors pour nous tous, si la douleur n'a pas de nom, la consolation en a un et c'est notre réconfort. Et j'ai pensé à ce verset pour témoigner de l'engagement de Marc et de sa foi, le verset de l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, verset 17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. »
Et j'invite Florence à nous partager un témoignage aussi.
Je suis Florence, la fille de Marc. Je ne voulais pas prendre la parole, c'est pas mon style de faire des grands discours. D'habitude, je me cache derrière mon violoncelle. Et papa aussi a toujours réussi à les éviter, même pour nos mariages, en préparant plutôt des diaporamas. Mais me voilà ici pour dire à quel point je comptais toujours sur mon père, qu'il était toujours disponible quand il fallait. Pour un conseil technique ou aider à réfléchir, jouer avec nous, avec les enfants, dire stop, faire avancer, reprendre une à une les photos quand il le fallait, ou même né au train à 6h du matin pour aller voir Nathan. Toujours répondre aux questions des enfants, c'était toujours trop long et beaucoup plus que ce qu'ils avaient demandé. Mais la physique, c'est pas simple. Il n'y a pas de recette de cuisine. Il faut comprendre. Alors ça fait dur, mais tout ça, je le savais déjà. En revanche, ce que j'ai découvert ces 10 derniers jours, c'est que papa, c'était aussi tout ça. Peut-être pas tout, mais une grande partie pour vous aussi qui êtes là aujourd'hui. Peut-être surtout ces étudiants, ces anciens étudiants, mais à vous écouter aujourd'hui. Aussi ses amis, ses collègues et tous les autres. Et que cela ne le rend que plus grand à mes yeux.
On va passer quelques photos préparées par Pascal et d'autres membres de la famille. Prenez place, s'il vous plaît. Sauf Pierre Lacoste qui s'avance et qui va nous apporter la prédication. Pierre, un ami de Marc. Et Pierre a été pasteur ici après Emmanuel, donc de 2000 à 2013, je pense. Et il a passé les 6 dernières années à Beyrouth, et il devait venir à Cannes. Et il est là maintenant pour l'enterrement de son ami Marc.
Nous allons lire les Écritures. J'invite Serge à me rejoindre. Et avant de lire ce passage de Paul aux Romains, au chapitre 4, nous allons demander le soutien de Dieu. Prions. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Non pas une vérité inerte, sans vie, mais une vérité qui nous questionne, qui nous emmène, qui nous donne vie en chemin. Garde-nous toujours dans la vérité de ta parole. Amen.
Romains 4, 1 à 24. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. En effet, ce n'est pas au moyen de la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers sont ceux qui relèvent de la loi, la foi est vidée de son sens et la promesse est réduite à rien. Aussi, est-ce par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure valable pour toute la descendance d'Abraham. En effet, il est écrit « J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. Abraham est notre père et devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de peuples. Selon la parole, telle sera ta descendance. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que, ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Voilà pourquoi cela lui fut compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit « cela lui fut compté », mais pour nous aussi, nous à qui la foi sera comptée, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification.
Espérez, espérez contre toute espérance. Et croire. Il y a des phrases de la Bible comme celle-là dont la musique est familière, dont pourtant le sens, à bien y regarder, nous échappe. Espérer contre toute espérance, voilà une de ces phrases. J'aimerais la méditer quelques instants avec vous. Espérer contre toute désespérance, ça oui, je comprends. Espérer au plus sombre de l'épreuve, garder la foi au plus fort du désespoir, garder le cap au plus fort de la tempête, ne comptant que sur la toute-puissance de Dieu, sûr de notre victoire. Oui. Même si cela me paraît hors de portée, je comprends ce message d'une espérance contre toute désespérance est clair, impossible, mais claire. La foi, à ce compte-là, serait une sorte d'antidote, vous voyez, de système immunitaire contre les coups durs de l'existence. Et c'est peut-être d'ailleurs ce message-là que vous êtes venu chercher aujourd'hui, en ces instants d'immense désespoir. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qu'écrit l'apôtre Paul. Il nous invite à autre chose, à espérer contre ou au-dessus de toute espérance. Et l'expression, vous le sentez, est paradoxale, elle est complexe, déroutante. Mais elle nous dit, je crois, quelque chose d'essentiel, quelque chose de puissant sur nous, sur Dieu, sur cette journée, quelque chose que je voudrais tenter de partager avec vous. Pourquoi ? C'est le mot que nous martelons depuis le départ de Marc. Mais pourquoi ? Pourquoi un mari aimant est-il enlevé à sa femme ? Pourquoi un fils doit-il partir avant son père et sa mère ? Pourquoi un grand-père ne peut-il plus jouer avec ses petits-enfants ? Pourquoi un chercheur talentueux, riche de savoir et d'expérience, ne peut-il plus subitement mettre sa science au service de la recherche pour la joie et le progrès de ses étudiants ? Pourquoi un ami, un grand frère tel que lui, nous est-il enlevé si tôt, si brutalement ? C'est le questionnement d'une révolte qui est profonde, d'une colère, d'un chagrin impossible à contenir. Mais plus largement, pourquoi existe-t-il un si grand écart entre ce que nous croyons et la réalité que nous éprouvons ? Jean Calvin, dans le commentaire d'une de ses épîtres, l'épître aux Hébreux, a bien perçu cette tension et avec des mots directs, il écrit « La vie éternelle nous est promise, mais cependant nous sommes morts. On nous tient propos de la résurrection bienheureuse, mais cependant nous sommes environnés de pourriture. » Je ferme la citation. Chers amis, sœurs et frères, nous croyons en un Dieu de justice, de paix, d'amour et de fraternité, un Dieu qui promet et qui bénit, qui nous donne un avenir et une espérance. Oui, de tout mon cœur, j'y crois. Alors comment maintenir ce credo devant la violence froide, implacable de l'événement qui nous rassemble maintenant ? Comment maintenir vivante l'espérance devant un tel chaos, un tel non-sens ? Sans doute cet écart abyssal entre ce que l'on croit et ce qui est explique le désamour des gens envers l'Église et plus largement envers les religions. Mais l'apôtre Paul, avec cette formule paradoxale « espérer contre toute espérance », nous ouvre une voie de compréhension étroite, on a l'habitude avec l'Évangile, très inconfortable, mais possible, et peut-être même réconfortante. Cette formule étonnante dit quoi ? Elle dit que la foi n'est pas le fruit d'une espérance aveugle, d'un optimisme illusoire qui se contenterait de vérités bien ficelées, d'un système dogmatique lisse, unifié, indiscutable. d'une religion vraie en soi, en toutes circonstances, mais sans lien réel avec la vie. Une religion coupée de la vraie vie. Et une foi finalement méprisante envers la vraie mort. Pour Paul, il s'agit premièrement d'espérer contre toute fausse espérance. Rejetant les placebos de la religion, les opiums du peuple dont l'Église, au long de son histoire, a pu devenir experte. Ces réponses toutes faites soulagent, peut-être un moment, la douleur, l'angoisse, mais elles attisent le vent mauvais d'une lente et sourde désillusion, d'un profond désamour que rien ni personne ne pourra plus contenir. Ne laissons pas les fausses espérances prendre les commandes de notre foi et du témoignage de l'Église. Marc était un croyant et il était aussi un chercheur. Il était chercheur jusque dans sa foi. Il préférait le chemin accidenté d'un questionnement honnête à l'autoroute des évidences. Il privilégiait le temps de l'analyse, quelquefois un peu long à mon goût, à l'empressement du résultat dont j'étais champion. Pour lui, l'espérance chrétienne n'était pas un optimisme illusoire ou incantatoire. C'était un combat. C'était la marche d'une vie. Tel Abraham, attaché, ficelé à la promesse de Dieu, cherchant jour après jour, pas après pas, rencontre après rencontre, l'odeur de la promesse, son signe, sa présence. Abraham l'a tellement désiré, cette promesse, qu'il en a même forcé l'accomplissement. Espérer, c'est aussi, oui, un peu se planter certains jours. Espérer, c'est surtout accepter de nous tenir ensemble, chancelant sur la brèche des questions sans réponse. C'est prendre le risque de sortir du schéma question-réponse pour nous ouvrir à l'aventure humaine et spirituelle d'un appel suivi d'un cheminement. Espérer, c'est aussi lutter contre Dieu, lui dire notre amertume, notre colère, sans pieux faux semblants, pour citer le pape François. Espérer contre toute espérance et croire, ce n'est pas attendre passivement dans l'entre-soi le jour où nous nous retrouverons là-haut. Espérer la résurrection des morts, c'est au contraire apprendre à discerner ici et maintenant, par la foi, au sein du règne apparent de la mort, les germes d'une vie nouvelle, surprenante, surabondante. Cette vie est là, en Christ, prête à ébranler les certitudes de notre vieux monde. Espérer, c'est accepter à la suite du Christ ressuscité, le premier vivant sur la terre, de devenir ici et maintenant héritier et porteur de cette vie. Espérer, espérer contre toute espérance, c'est l'histoire d'Abraham, vous l'avez peut-être en tête, je l'évoque juste comme ça, que Dieu emmène hors de sa tente, hors de ses visions étroites, hors du confinement dans lequel il se croit à l'abri. Et il le mène dehors, pour lui montrer les étoiles du ciel et lui faire hériter le monde. Dieu lui promet une descendance nombreuse. Il devra se contenter de deux fils uniques, uniques par leur destinée, Isaac, Ismaël, qui seront tous deux, il faut le souligner, porteurs de la bénédiction de Dieu. Chers amis, sœurs et frères, chère Maryse, chère famille, je pose maintenant à nouveau la question, où est passée la promesse? Qu'avons-nous obtenu? Dans la maison de famille, chez toi, Maryse, et dans cette église de Cannes, où marqué partout, dans chaque salle, dans chaque discussion, dans chaque projet, eh bien, je ressens combien Dieu nous a bénis, combien sa promesse est agissante maintenant au travers de lui, jusque dans notre douleur. Comme une sorte d'héritage à vivre, Marc nous a transmis ce qu'il avait reçu lui-même. Son appétit insatiable pour la vie, on l'a, les pasteurs l'ont dit, pour la recherche, son amour pour l'Église, cette Église qu'il a vue naître, grandir, devenir à son tour serviteur. Je ne refais pas la liste. Mais son ouverture et sa joie à rencontrer d'autres chrétiens que lui et d'autres croyants que lui, qu'ils soient de la lignée d'Isaac ou de celle d'Ismaël, dans le vivre ensemble à Cannes. C'était beau. C'est une bénédiction, il faut en hériter maintenant. Il y a là un appel pour chacun. Allons puiser à cette bénédiction. Mettons en œuvre ce legs, cet héritage, ne tardons pas, le temps est court. Devenons à notre tour, comme Marc, des passeurs, des femmes et des hommes conscient que l'espérance, c'est maintenant. Et pour reprendre les mots du philosophe théologien Paul Ricoeur, je les cite comme une exhortation à nous tous, et je termine avec ça. Va au-devant de la vie. Il y a un sens caché. Cherche-le. Veuille comprendre. L'absurde n'est que l'avant-dernier mot de l'histoire. La grâce de Dieu en est l'ultime. Telle est l'espérance de la foi. Amen.
Je vous invite à prier. Père, nous venons maintenant encore à toi, avec l'assurance que tu prêtes l'oreille à nos prières et que tu connais notre cœur. Être confronté à la mort d'un être cher est toujours une épreuve, quelles que soient les circonstances. Même si certaines circonstances rendent parfois l'épreuve particulièrement douloureuse. Alors nous sommes affectés, fragilisés, interpellés, peut-être révoltés. Seigneur, viens à notre aide. Secours-nous par ton esprit. Sois source de consolation et d'espérance pour celles et ceux qui ont perdu avec Marc un mari, un père, un fils, un frère, un ami, un compagnon de route. Car nous poursuivons notre chemin sans lui. Mais nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous as accordé à travers Marc. Merci pour ce qu'il était et ce qui restera dans nos souvenirs. Merci pour la vie que tu lui as donnée, pour l'amour qu'il a donné et reçu, pour les joies qu'il a partagées. Merci pour tout ce que tu lui as donné de faire sur cette terre, pour le service qu'il a accompli fidèlement, pour sa foi, pour la consécration et l'engagement dont il a fait preuve. Et par-dessus tout, merci pour la vie éternelle que tu lui as offerte. Nous le croyons, tout comme lui le croyait fermement. Il est aujourd'hui dans ta paix. Alors Seigneur, sois particulièrement pendant les jours à venir avec celles et ceux qui sont dans le deuil. Ne les laisse pas prisonniers de leur chagrin. Aide-les à surmonter leurs douleurs, leurs doutes, voire leurs sentiments de culpabilité ou de colère. Accorde-leur de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres et de trouver en toi la consolation et l'espérance. Plus largement, nous te prions pour celles et ceux, et en ce moment même, partout sur notre terre, qui pleurent des êtres qui leur sont chers. Ne nous permet pas de rester insensibles aux souffrances que nous côtoyons. Fais de nous, en toutes circonstances, des témoins de ton règne de paix, de justice et d'amour. Nous voulons placer notre confiance en toi, particulièrement en ce jour. Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes avec toi, et toi, notre Dieu, tu es avec nous. Et c'est pourquoi, ensemble, nous voulons dire la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et nous allons nous remettre debout pour chanter, si Annick et Samuel peuvent se frayer un chemin pour arriver devant. Priez avec nous, et pasteur à Toulouse, mais il est aussi président de la commission synodale de notre union d'église, et Marc était vice-président de cette commission synodale. Je voulais le signaler. Mon secours est en toi. Reprenez place, s'il vous plaît. quelques annonces de la part de la famille de Maryse, des enfants, des petits-enfants, des parents, de toute la famille, de la sœur. Je voudrais vous remercier de votre présence cet après-midi. Vous étiez nombreux, trop nombreux pour cette salle, mais ça touche énormément. Aussi bien que tous les messages reçus par texto, SMS, mail, coup de téléphone, message. Merci. La famille a pu être soutenue et a été touchée. Dès la fin de ce service, nous nous dirigerons vers le cimetière de Cannes-la-Bocca, Abadi 2, rue Michel Jourdan, mais au-delà de l'autoroute, si j'ai bien regardé la carte. On peut y aller, et si vous voulez, nous aurons un temps de recueillement encore là-bas. Il y a du covoiturage qui est possible, et si vous avez besoin d'une place, d'une voiture, je ne l'ai pas prévenu, mais Michel peut vous renseigner. Michel qui est quelque part, c'est un grand, 1m88, si je m'abuse. Au retour du cimetière, on a pensé qu'il serait bon de se retrouver ici pour prolonger ce temps de communion les uns avec les autres. Il nous a semblé, le conseil de cette église, qu'on avait besoin de se voir, de se parler. Et donc on organise une petite collation, un goûter apéritif, on ne savait pas quel nom lui donner. Et donc, après le cimetière, et même si vous ne venez pas au cimetière, on peut se retrouver ici pour vers les 17h. Vous pouvez même attendre ici, vers les 17h, pour avoir ce temps d'échange. L'église protestante d'Urioux serait en tout cas ravie de vous accueillir pour ce moment-là. Il y a à la sortie le livre pour recevoir les mots d'encouragement et de soutien pour la famille. Et il y a aussi une corbeille pour recevoir vos cartes et vos petits mots. On va chanter ce chant très connu chez les protestants, mais j'ai remarqué dans Vivre Ensemble que les catholiques l'appréciaient aussi. À toi la gloire. Et je vous invite à vous lever pour le chanter encore. Thank you. Restons debout pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que la paix du Christ à laquelle nous sommes tous appelés soit sur chacun de nous, dès ici-bas et pour toujours. Que la bienveillance du Seigneur qui se renouvelle chaque jour nous soutienne nuit et jour. Que la grâce de Jésus-Christ vous accompagne sur le chemin de la vie. Allons dans l'amour infaillible du Seigneur. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Et je vais demander à nos amis d'emporter le cercueil sur une musique. Et quand le